Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, excellent réveil à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous et good morning America. Nous voilà, les Bleus sont qualifiés pour la Coupe du Monde nord-américaine après leur large victoire hier soir face à l'Ukraine 4-0. La France, toujours debout, 10 ans après les attentats du 13 novembre. Hommage et émotion hier soir à Paris. Et puis le frère d'un militant écologiste farouche opposant au trafic de drogue tué hier à Marseille en plein jour.
Les Bleus iront en Amérique du Nord l'été prochain.
Les joueurs de Didier Deschamps s'imposent 4-0 face à l'Ukraine. Ils valident leur billet pour la prochaine Coupe du Monde. Elle sera à vivre sur RMC Radio officielle de ce mondial du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le rêve d'une troisième étoile prend forme, on n'y est pas encore. Un moment à ne surtout pas banaliser, Valentin Jamin.
Oui, dans le stade des chansons, en référence à l'Amérique, destination des Bleus l'été prochain, une communion avec le public et de la fierté pour le défenseur Lucas Digne.
Ah, c'est particulier, c'est exceptionnel, je pense que pour toute la France et pour tous les joueurs aussi, c'est quelque chose de fabuleux. Et en plus, on gagne 4-0 avec la manière, donc c'est pas des choses communes non plus.
La France commence à avoir l'habitude, elle va participer à sa 16e grande compétition de suite, et même si hier le contenu a été poussif en première période, le double buteur Kylian Mbappé souligne la régularité française.
Ce qui est cool, c'est que les gens dans le stade banalise pas le fait d'aller en Coupe du Monde. On est conscient de ça, que c'est normal pour une équipe comme la mettre dans la Coupe du Monde, mais il faut pas banaliser parce que, comme j'ai dit, dans l'histoire de l'équipe de France, ça a pas toujours été le cas. Donc c'est toujours un plaisir et on va aller là-bas pour représenter les Français du mieux possible.
Didier Deschamps incarne cette réussite puisque le sélectionneur a toujours qualifié les Bleus sur les grands tournois depuis 2013.
J'ai profité, oui, évidemment. On a fait ce qu'il valait, donc beaucoup de fierté pour l'ensemble du groupe, le staff qui est à mes côtés. Faut apprécier ces moments-là.
Il connaîtra ses adversaires pour son dernier mondial lors du tirage au sort le 5 décembre prochain.
Le Parc des Princes emprunt dans lourd silence avant le début de la rencontre. Hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Quelques heures auparavant, c'est au Jardin du Souvenir, à Paris, que la nation a commémoré cette triste soirée. Cérémonie forte en émotion devant 1500 personnes, des blessés, des rescapés, mais aussi familles de victimes et secouristes. Inès Zegloul.
18h, les clochers de la capitale s'éveillent, se répondent, puis se taisent. Quelques secondes de silence, de souffle retenu, très vite balayé par l'orgue, par les notes aiguës du cœur qui s'envolent. Philippe Duperron, président de l'association de victimes 13-11-15, cite Robert Badinter. Oui, la vie est plus forte que la mort.
Mais les cicatrices demeurent indélébiles. Dieu qu'il nous manque.
Nick Alexander.
132 victimes, 132 noms scandés par des héros inconnus.
Armel Antisevic Pumia.
Et puis le rock, pour toujours. Au pupitre, Arthur Desnouveaux, président de l'association Life for Paris.
Nous, victimes, nous n'avons rien d'autre à vous proposer qu'une exigence. Celle de vivre en société. Et merci à tous ceux qui nous aiment depuis 10 ans.
Chacun de vos pas, promet Emmanuel Macron, porte ce qui nous tient, l'esprit de résistance. Celle, par exemple, de ce cœur du 13, rescapé, proche de victime, torse bombé. Vous ne marcherez jamais seul.
Et dans la foulée de cette cérémonie, Emmanuel Macron annonce la décoration de la Légion d'honneur à venir des policiers qui sont intervenus au Bataclan. C'était une réclamation des associations de victimes.
7h04 sur RMC. Boualem Sansal va plutôt bien.
Et il espère revenir en France vendredi ou samedi. Vendredi, c'est aujourd'hui. C'est ce qu'il dit dans un entretien à l'écrivain Kamel Daoud, retranscrite dans Le Point. Gracié et libéré mercredi par l'Algérie après un an de détention, l'écrivain franco-algérien est actuellement soigné à Berlin. Il est 7h05. Vous écoutez RMC, un homme de 22 ans tué par balle en plein jour. Ça s'est passé hier à Marseille. Et la victime n'est autre que le frère d'Amine Kessassi, figure politique locale engagée depuis plusieurs années, Pierre Bazin, contre le trafic de stupéfiants.
Oui, il est environ 14h30 lorsqu'une moto se porte à la hauteur de la voiture de la victime. Le jeune homme de 20 ans est installé au volant, selon le parquet de Marseille, lorsque le passager de la moto ouvre le feu à plusieurs reprises sur la victime, qui va succomber à ses blessures. Plusieurs étuis de 9 mm sont prélevés sur la scène de crime. La victime, inconnue des services de police, est donc le frère d'Amine Kessassi, une figure politique locale de Marseille, qui s'est engagée depuis plusieurs années contre le trafic de drogue. Un combat qui fait suite à la mort en 2020 de son premier frère Brahim, tué lui dans un règlement de compte. Face à ce nouvel homicide, le parquet de Marseille a indiqué ouvrir une enquête pour assassinat en bande organisée.
Le déficit de la Sécu pourrait atteindre les 24 milliards d'euros. C'est bien plus que l'objectif fixé par le gouvernement à 17 milliards. Et plus que l'an dernier. Inquiétude ce matin du ministre du Travail dans les colonnes du Parisien, Jean-Pierre Farandou, dresse un premier bilan de l'examen du budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Il appelle les parlementaires à la responsabilité. Les députés qui ont repris hier l'examen du projet de loi finances, les débats vont se poursuivre ce vendredi avant une pause ce week-end. Annonce surprise du gouvernement dans la soirée. Colère des oppositions, la gauche accuse le gouvernement de vouloir empêcher un vote. Il faut dire que les délais sont serrés. 1900 amendements doivent encore être étudiés avant le 23 novembre. Ce sera dimanche prochain à minuit. On termine avec un grand classique de la gastronomie française en perte de vitesse, le fromage, qui ne séduit plus vraiment les jeunes, notamment. Seuls 22% d'entre eux en consomment encore à la fin d'un repas. Les habitudes de consommation changent, nous dit l'interprofession du lait, alors que s'ouvre aujourd'hui à Paris l'AOP Festival. Et parmi les changements, Clara Gabillet, la manière de consommer le fromage davantage utilisé comme ingrédient dans les plats.
Il y a bien sûr les puristes.
J'aime le comté, le camembert.
Et ceux qui préfèrent le fromage fondu.
Ce soir, je vous fais un gratin avec du mozzarella râpé.
Soit tartiné, soit gratiné, mais jamais tout seul.
Un tiers du fromage consommé par les moins de 35 ans est mangé chaud dans des burgers, sur des pizzas, moins cher et plus pratique. Un virage qu'a bien cerné Julienne Lejaune dans son petit village du Pas-de-Calais.
Tout le travail se passe là-dedans.
Et le rouleau, en fait, vient créer des boules de mozza.
À 27 ans, cette fromagère est l'une des seules productrices de mozzarella en France, le deuxième fromage le plus consommé après l'emmental râpé.
Je voulais être toute seule, en fait, sur le marché pour pas avoir de concurrence. Je touche plus de monde. Elle a un goût unique qu'on retrouve pas dans des mozzas industriels.
Selon elle, le monde agricole doit se mettre à la page, mais pour Hubert Dubien, les fromages traditionnels ont les armes pour résister. Il est le représentant national des appellations laitières.
On sait que ces fromages se cuisinent très très bien. C'est magnifique, hein. On fait vraiment des plats délicieux. On sait faire ça. Mais voilà, il faut leur donner envie.
Une tendance loin d'inquiéter le secteur. Près d'un Français sur deux mange du fromage tous les jours.
Apolline, le fromage plutôt à la coupe ou en gratin?
Ah, les deux. Je suis très, très, très fromage. Trop fromage. Passion fromage. C'était Thibaut Texer, il est 7h08. On part au 32-16. Marcel, qui nous appelait de Fécamp dans la Seine-Maritime. Bonjour Marcel.
Bonjour.
Comment ça va Marcel? Vous êtes agent de sécurité au boulot peut-être d'ailleurs à 7h08?
Pas encore, mais j'y arrive. Je suis sur mon lieu de travail, mais j'ai pas encore commencé.
Vous venez d'arriver et juste avant de plonger, vous nous appelez. Marcel, ça. Vous vouliez réagir à ces taxes qui vont être mises sur les petits colis. Alors la France veut des taxes sur Chine, sur les colis qui viennent de Chine. L'Union européenne approuve l'idée effectivement de mettre aussi ces taxes. Qu'est-ce que vous en pensez vous?
J'en pense pas grand-chose, à part nous taxer, que ce soit la France ou l'Europe, ils savent faire que ça.
Vous commandez sur Chine, vous?
Je commande sur Chine, je commande sur Temu, j'ai jamais eu aucun problème avec ce que j'ai commandé.
Vous commandez quel genre de choses?
Moi, je commande des t-shirts, je commande des pantalons pour mon travail, jamais eu aucun problème. Ça m'arrive de commander des petits gadgets aussi, comme beaucoup de gens. Et voilà, je fais partie de ce qu'on appelle, entre guillemets, la France d'en bas, qui n'ont pas les moyens de s'acheter des jeans à 25 ou 30 euros régulièrement. Moi, je commande là où c'est moins cher, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je commande avec mon niveau de vie.
Donc vous vous dites voilà, que c'est vous qui allez vous retrouver effectivement à devoir être pénalisé, parce que ce serait des... Alors certains proposent même 25 euros de taxes, c'est-à-dire totalement décourageant, hein, évidemment.
Ouais, enfin ceux qui proposent ça, ce sont des députés probablement, qui eux ont les moyens avec notre argent, puisque c'est nous qui les payons, de se payer peut-être des fringues, des costumes à 100 ou 200 euros.
Avec l'idée aussi, et j'imagine Marcel que ça vous pouvez l'entendre, qu'il y a une question, mais sauf que ça devient du long terme, c'est à long terme, c'est nos entreprises, nos PME, notre industrie textile qui s'écroule. Et ça, c'est
alors,
des emplois.
Je veux bien entendre ça, mais si vous allez dans les magasins, la plupart des magasins, vous pouvez aller sans dire de nom à Decathlon, par exemple. Ou Decathlon, Intersport, ce genre de choses. Ils ont beaucoup de t-shirts, de vêtements de sport qui sont fabriqués en Asie. Ou au Bangladesh, ou peu importe, en Inde, mais qui sont fabriqués dans les pays asiatiques et qui nous font des prix, allez, 25, 30 euros, 40 euros le t-shirt, alors que c'est fabriqué là-bas.
Donc vous préférez carrément aller sur Chine. Marcel, je peux vous poser une dernière question? Vous gagnez combien par mois?
Moi, je suis en tant qu'agent de sécurité, je fais ça depuis 98. Ouais. Je suis à 1500 euros par mois.
1500 euros par mois. Et effectivement, donc, vous regardez à chaque euro pour le t-shirt.
Je regarde à chaque euro pour plein de choses.
Bah évidemment, évidemment. Voilà. Merci Marcel, en tout cas justement, on entend aussi votre point de vue. On le sait bien, ce budget, il est en discussion. Et c'est vrai que c'est un peu la foire aux taxes. Bonne journée Marcel, comme lui, vous nous appelez au 32-16, il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Qui va payer pour nos retraites ? Toutes les sources d'économie ont été rejetées. La suppression de l'abattement de 10% sur les retraites, retoqué. Le gel des pensions, retoqué. Bonjour Mounir Laghoun, vous êtes un génie de la finance, 32 ans, entrepreneur, influenceur. Pour vous, c'est simplement un cri du cœur. C'est pas juste Nicolas qui paye, comme on dit, c'est les jeunes qui payent, les jeunes qui vont payer pour les retraités de demain. Non seulement vous le dites, mais vous avez des solutions aussi à proposer. Comment anticiper ? Vous nous le dites dans un instant, 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Les retraites, est-ce que ça concerne vraiment ceux qui sont en âge d'être à la retraite ou est-ce que ça concerne aussi les jeunes ? Bonjour Mounir Laghoun.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur, influenceur en finance, vous êtes à la tête de Finarist, une start-up de placement financier qui a un succès fou. Et quand vous entendez ces débats en ce moment à l'Assemblée sur les retraites, vous vous dites qu'il y a un vrai problème de génération. Pendant qu'on parle des retraites de ceux qui auront 62, 64, 68 ans, bah vous, les jeunes actifs, les 30, 40 ans, vous êtes complètement hors du jeu, oubliés.
Là, on est en train d'opposer 21 millions de retraités à 32 millions de Français de moins de 40 ans. Mais je pense que le problème, ce n'est pas les retraités, c'est les députés. Donc là, aujourd'hui, il y a 577 personnes dans l'Assemblée nationale qui ont décidé de prendre tout le monde en otage et qui veulent perpétuer un système qui, structurellement, ne fonctionne pas. Moi, j'aimerais que le système par répartition fonctionne. C'est un système qui est extrêmement vertueux. La réalité, c'est qu'il faut laisser le choix. Et aujourd'hui, moi, je le vois sur Finari tous les jours. Les gens prennent leurs finances en main parce qu'ils se disent que demain, il n'y aura plus personne pour payer leur retraite.
Qu'est-ce qu'ils vous disent les jeunes aujourd'hui ? C'est-à-dire que quand on voit effectivement que pour sauver la suspension de la réforme des retraites, je précise que simplement dans la semaine qui vient de s'écouler, quasiment toutes les sources d'économie qui devaient aller en regard de cette suspension de la réforme des retraites ont été retoquées par les députés. Il devait y avoir un abattement de 10% supprimé sur les pensions de retraite, retoqué. Il devait y avoir un gel des pensions, ça devait rapporter 3,6 milliards d'euros d'économies. Ça a été retoqué. Donc au fond, au moment où on se parle, la suspension de la réforme des retraites, ça va coûter et ça ne sera pas compensé. Est-ce que vous anticipez, vous, quand vous avez 32, 33, 34 ans, que vous commencez à bosser, qu'en fait vous n'aurez pas de retraite ?
Mais complètement, et c'est quelque chose qui est partagé par les utilisateurs de Finari et par la majorité des jeunes aujourd'hui. Il y a trois quarts des jeunes qui pensent qu'ils n'auront plus de retraite. Donc je veux dire, si c'est pas un signal d'alarme, il faut quand même commencer à s'inquiéter. Tout à l'heure, on écoutait Marcel, agent de sécurité, il touche le SMIC. Sur son 1500 euros de SMIC, il va payer 500 euros de cotisation de retraite entre lui et son employeur. Cet argent, il va dans la poche d'un retraité. Marcel ne le reverra peut-être jamais. Et ça, c'est quand même dramatique. Donc, il est temps d'offrir d'autres solutions. Et moi, je ne demande pas de passer à la capitalisation. Moi, je demande simplement à ce qu'on donne le choix. Et d'ailleurs, le choix, c'est quand même assez intéressant puisque les sénateurs, eux, se le donnent. Ils ont une retraite par répartition, mais ils ont aussi de la capitalisation. Et ils sont assis sur un magot de 1,8 milliard d'euros qui est placé en bourse à plus de 1 milliard d'euros.
Donc, ils se sont fait leur petite capitalisation.
Ils se sont fait leur capi. Et chaque année, le magot grossit.
Leur capi, vous dites.
Ouais, leur capi,
ça,
voilà.
C'est le vocabulaire de l'influenceur financier. Donc, ils se font leur petite capi.
Mais d'ailleurs, c'est aussi un problème de vocabulaire. Il y a beaucoup trop de termes techniques aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on paye pour des retraités, mais on ne reverra pas l'argent à la sortie. Mais donc, il faut qu'on passe à la suite.
Donc, vous estimez qu'il faut quoi ? Progressivement accompagner les gens. Alors, évidemment, pour pouvoir mettre de côté et se créer progressivement une capitalisation, encore faut-il en avoir les moyens. Comme vous le disiez, Marcel, une fois qu'il a payé ses cotisations, il ne lui reste plus rien pour pouvoir mettre de côté, épargner.
Eh bien, bien sûr. Donc, il faudrait peut-être commencer par lui rendre du pouvoir d'achat. J'ai entendu personne parler de l'impôt quand même principal qui pèse le plus sur les ménages les plus modestes, qui s'appelle la TVA, qui est la première recette de l'État. Donc, baisser la TVA, vous rendez du pouvoir d'achat demain à tous les Français instantanément. Ça, personne ne l'évoque jamais. La deuxième chose, c'est que, effectivement, il faut gérer son budget. Et ça, c'est difficile lorsqu'on a un revenu modeste. Mais si on a la chance de gagner un peu plus, eh bien, il faut suivre son budget. Vous prenez un Excel, vous prenez une application, vous prenez l'application de votre banque, peu importe. Mais vous devez faire en sorte, vous devez tenir et vous devez vous fixer un cap. un cap que moi j'aime bien, c'est de se dire qu'on va dépenser 50% dans les dépenses contraintes, l'immobilier, l'électricité, etc., qui ne cessent d'augmenter d'ailleurs. 30% pour se faire un peu plaisir dans la vie et 20% pour le mois du futur. Donc on va épargner. Mais encore faut-il avoir du budget. Et c'est vrai que quand on se dit, nous, génération un peu sacrifiée, qui avons l'inflation, qui avons des guerres sur notre sol, etc., qui ont eu le Covid, eh bien, déjà, rien que de tenir un 50% de dépenses contraintes, c'est très difficile quand on sait que l'immobilier...
Vous faites comment, vous ?
Eh bien, moi, j'ai la chance d'être entrepreneur. Et donc, j'ai eu des crédits étudiants, j'ai eu des boulots. Et c'est vrai que j'ai privilégié l'investissement long terme. Donc, j'ai eu des boulots qui étaient assez mal payés pendant longtemps parce que je savais que sur le long terme, je pourrais avoir plus de rémunération. Et surtout, je suis actionnaire. Moi, je possède une partie de ma société. Et d'ailleurs, tous mes salariés sont actionnaires de la société. Et aujourd'hui, il y a un dispositif qui est magique en France qui s'appelle l'épargne salariale. Il y a des millions de Français qui sont...
Qui devait être aussi taxé. Qui a été discuté par les députés la semaine dernière pour être taxé.
Alors... D'ailleurs, il y a un député qui les a traités de parasites. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant. Je vous rappelle que le premier actionnaire de Total, on peut aimer Total, on peut pas aimer Total. Mais la réalité, c'est que le premier actionnaire, ce sont les salariés qui ont touché en 2023 500 millions d'euros de dividendes. Mais ça, c'est pas des milliardaires, ça, ce sont des gens comme vous et moi, ce sont d'ailleurs aussi des retraités qui profitent du succès et qui sont payés par ailleurs. Donc, c'est normal d'être actionnaire.
Merci beaucoup, Mounir Laghoun, d'être venu partager avec nous ce matin votre start-up de placement financier. Ça s'appelle Finari. Et c'est vrai que c'est passionnant d'entendre aussi cette manière aussi très dynamique de penser les choses. Tout à l'heure, à 8h30, une autre vision de l'économie. Ce sera le monsieur budget du RN, Jean-Philippe Tanguy, qui sera mon invité. Ne le manquez pas à 8h30 sur RMC et BFM TV. Il est 7h20.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
L'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, nous a rejoint. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, prix des entrées, mépris des auteurs, manque de transparence. Les dessinateurs menacent de boycotter le célèbre festival de la bande dessinée d'Angoulême.
Oui, le festival vit une crise victime de son succès. La BD aujourd'hui, c'est un mastodonte. Rien qu'en France, ça pèse 143 millions d'euros par an.
Et vous allez nous remonter le fil de la bande dessinée. Arnaud Demanche vient aussi pirater le face-à-face dans un instant. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes. Il est 7h21 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque matin. L'histoire qui éclaire notre actualité avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, le célèbre festival de la bande dessinée d'Angoulême vient de vivre une semaine difficile. Il y a de nombreux auteurs et éditeurs qui menacent de boycotter la prochaine édition, qui débute donc dans 2 mois et demi. Heureusement, tout est en train de rentrer dans l'ordre, Arthur, pour la bande dessinée.
Oui, et heureusement parce que le festival d'Angoulême, c'est une institution depuis 1974. Alors ces appels au boycott ont quand même fait plier l'association propriétaire de l'événement, puisqu'elle accepte de changer l'entreprise organisatrice. C'est important que ce festival poursuive son développement. Il a accueilli plus de 200 000 visiteurs l'an dernier, preuve du succès de la BD.
La BD, la bande dessinée, ça a toujours été populaire.
Eh oui, raconter des histoires avec des images, c'est vieux comme le monde et je n'exagère pas, les peintures de la grotte préhistorique de Lascaux sont déjà une première sorte de BD, hein. Ce sont des images qui racontent des histoires et c'était il y a 20 000 ans. Au Moyen-Âge, on en faisait aussi. Prenez la fameuse tapisserie de Bayeux, dont on a beaucoup parlé cette année. C'est quoi cette tapisserie ? Eh bien, tout simplement, c'est une succession de dessins et de textes qui racontent une victoire militaire de Guillaume le Conquérant. Là encore, une première forme de BD, et c'était en 1066.
La première véritable, officielle BD, ça vient d'où ?
Ça vient de Suisse. La première BD, disons, moderne, est publiée en 1833, et ça s'appelait Histoire de Monsieur Jabot. Monsieur Jabot, c'était un petit snob un peu idiot qui essayait d'imiter les manières de la haute société.
Bourgeois gentilhomme.
Exactement, et d'ailleurs, c'était inspiré directement de cette pièce de Molière, Le Bourgeois gentilhomme. Il n'y avait pas encore de bulles, hein, juste des cases avec des petits dessins et un texte en dessous.
Et justement, quand est-ce qu'apparaissent les bulles dans
Alors,
la BD ?
Ces bulles, déjà, ça porte un nom technique, ça s'appelle des phylactères. Techniquement, en BD, on appelle ça des phylactères. Et c'est utilisé pour la première fois à la toute fin du 19e siècle. C'est une invention américaine. Un auteur qui s'appelait Richard Outcote, c'était dans une BD qui racontait les aventures d'un petit gamin habillé en jaune, de Yellow Kid.
Et en Europe, c'est la Belgique qui va s'imposer comme le pays de la BD.
Et oui, évidemment, la Belgique et son plus grand représentant, c'est bien sûr Tintin, créé par le dessinateur Hergé. Le premier album paraît en 1930. C'était Tintin au pays des Soviets. Alors, pour info, Tintin est de Bruxelles. Mais il y avait un personnage de BD concurrent, le Challenger de Tintin, si vous préférez, qui, lui, a été créé à Charleroi, qui est une autre ville de Belgique. Ce personnage, c'est Spirou. Et dans les années 50, Spirou et Tintin vont se livrer une guerre à mort. Spirou, c'était le héros des classes populaires, alors que Tintin, c'était le héros de la bourgeoisie, un peu des intellochiques, quoi. Deux salles, deux ambiances.
Et aujourd'hui, la bande dessinée, elle a toujours autant de succès.
Oui, en 2024, les ventes cumulées de mangas et de BD ont généré 143 millions d'euros de chiffre d'affaires pour plus de 68 millions d'exemplaires vendus. D'ailleurs, le succès du dernier album d'Astérix le prouve, puisqu'hier, il a passé le cap du million d'exemplaires, alors qu'il est sorti il y a moins d'un mois.
Je vais aller l'acheter, de ce pas.
Très bon.
Merci
album.
Arthur Chevalier, l'historien et donc amateur de BD d'Apolline Matin. 7h25, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Et salut bonjour. Arnaud, dans le face-à-face, tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy.
Oui, j'ai mis une musique de gauche pour recevoir le socialiste Jean-Philippe Tanguy. Vous avez vu, en ce moment, la droite et les macronistes disent que le RN est socialiste.
Ils ont un programme économique de gauche, la retraite à 60 ans, des hausses d'impôts partout, c'est du socialisme.
J'ai même vu une phrase de Gérald Darmanin qui a déclaré « Jordan Bardella est un communiste économique ». Waouh ! Un communiste, quoi ! Le RN, c'est le programme de Mélenchon sans les Arabes, en fait. La fête de l'UMA, elle va avoir une autre gueule, hein, avec le RN aux manettes. Et salut à tous, bienvenue à la fête de l'UMA. Dans un instant sur scène, Black M, qui sera arrêté au bout de deux chansons pour être expulsé à Bamako. Sous vos applaudissements, vous allez kiffer. Il y aura également un concert des Gypsy Kings, ce qui vous permettra d'aller dégager leur putain de caravane des champs de nos agriculteurs pendant qu'ils sont occupés à faire leur musique du tiers-monde. Profitez-en. Au stand de librairie, venez rencontrer en dédicace Pascal Prolétaire. Et puis, passez-nous voir au stand Couscous Solidaire et donnez-nous vos noms pour notre grand concours Voyage au Soleil, un voyage non pas de 30 jours mais de 30 ans dans le pays du Maghreb de votre choix. Bonne fête de l'UMA du RN. Après, peut-être qu'ils ont raison, que Jean-Philippe Tanguy est secrètement de gauche, qui va la nuit dans des clubs SM, socialo-marxistes, dans la cave d'une recyclerie solidaire. Tu rentres en toquant à la porte, le code secret,
Marine à la force, Mazarine à la force tranquille.
Ok Jean-Philippe, tu rentres. Et il peut saluer ses amis socialistes clandestins, lire du Pierre Bourdieu dans une pièce recouverte de Sophie Binet. Parce que c'est là que je me sens bien. Alors la réforme des retraites a été suspendue, et d'une façon assez surprenante, puisque la France Insoumise a voté contre cette suspension. Là c'est pareil, c'est l'inversion des pôles, là c'est la quatrième dimension, ils font tous le contraire de ce qu'ils sont naturellement. Dans 6 mois, LFI c'est ça, hein. Salut les insoumis. Être insoumis, c'est quitter la soumission à un système étatiste et aux chaînes de l'assistanat. Alors sois un rebelle, monte ta boîte et rejoins l'incubateur de start-up insoumise. Avec nos partenaires de la Donald Trump Business School Academy, affirme ton potentiel entrepreneurial et fais comme le nouveau député LFI, Meyer Habib. Engage-toi à notre côté pour une économie tournée vers l'avenir en partenariat avec Israël, pour assurer la stabilité régionale et la prospérité mondiale par le développement et l'innovation et la croissance verte. Car Israël, c'est plus qu'un pays, c'est une start-up nation devenue une scale-up civilisationnelle. Alors lève des fonds, pas des pancartes. Vive la croissance insoumise et shalom Jean-Luc. Allez, c'est difficile de comprendre ce nouveau monde, hein. Allez, rendez-vous avec Jean-Philippe Tanguy à 8h30.
Avec Jean-Philippe Tanguy à 8h30, avec vous Arnaud Demanche à 8h20. Et dans un instant, la météo et le journal. Et puis il y aura le débat à RMC. Faut-il régulariser 250 000 sans-papiers ? Voix de droite, Charles Consigny. Voix de gauche, Cécile Duflot. Ils en débattent dans moins de 20 minutes. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dingen. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La Corse se mobilise contre sa mafia. Deux manifestations sont prévues demain après-midi à Bastia et Ajaccio. C'est le choix de la rédaction ce matin. RMC s'est rendu sur place pour comprendre les raisons de cette colère. Il n'y a jamais eu aussi peu de logements neufs mis sur le marché ces derniers mois. Les promoteurs immobiliers réclament des mesures incitatives. Et puis l'équipe de France de football a décroché son ticket pour la Coupe du Monde 2026 hier grâce à sa victoire 4-0 face à l'Ukraine.
C'est un mouvement qui prend de l'ampleur en Corse, la mobilisation contre la mafia.
Avec une nouvelle journée d'action prévue demain à Bastia et à Ajaccio, après une première manifestation le 8 mars dernier, un ras-le-bol qui s'exprime alors qu'on compte actuellement sur l'île 20 équipes criminelles qui ont pour la plupart déjà pénétré les secteurs politiques, économiques et sociaux. C'est ce que dit une note du renseignement rédigée cette année. Et c'est le choix de la rédaction ce matin. Anna Jojard, vous vous êtes rendue sur place pour RMC et vous l'avez constaté, les Corses n'en peuvent plus.
Sur la route du Cap Corse, difficile de les manquer, ces affiches placardées sur les platanes, les poubelles et les panneaux.
Donc c'est la manifestation de la coordination assassine et mafieux ivoire, donc assassin et mafieux dehors.
David Brugioni est le référent d'Anticor en Corse et il est membre de la coordination anti-mafia.
Je pense qu'il y en a un ras-le-bol général de voir ce qui se passe, comment on vit, surtout pour nos enfants, surtout pour l'avenir, surtout pour les gens honnêtes qui veulent travailler dans ce pays.
Ce ras-le-bol contre la mafia, on le retrouve aussi de l'autre côté de l'île, dans les rues d'Ajaccio, auprès des habitants qui, pour autant, ne semblent pas tous prêts à manifester demain.
Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas si elle pourra servir la manif contre la mafia. Ça, je ne suis pas sûre du tout. Mais...
Vous êtes un peu désespérée ?
J'espère que non.
Est-ce que ça va être suffisamment efficace ? Parce que regardez ces marches blanches qu'il y a tout, quand il y a tous ces drames de ces jeunes qui perdent la vie. Ça ne change pas grand-chose.
Mais pour les organisateurs des manifestations, peu importe les réticences, ils savent que leur lutte est populaire sur l'île et ils comptent bien continuer d'éveiller les consciences.
Et cette question, quel rôle joue véritablement la mafia en Corse ? Je la pose juste après votre journal, Élise, à Frédéric Ploquin, le journaliste spécialiste du grand banditisme. Il nous racontera tout.
La famille d'Amine Kessassi, de nouveau endeuillée ce matin. L'écologiste marseillais avait déjà perdu l'un de ses frères en 2020 dans un narco-homicide. Hier, c'est son petit frère âgé de 20 ans qui a été tué par balle en plein jour dans le 4e arrondissement de la ville. Pour l'heure, aucun lien n'a été établi avec le trafic de stupéfiants. Il est 7h34. L'inquiétude ce matin du ministre de l'économie Jean-Pierre Farandou qui dresse dans les colonnes du journal Le Parisien un premier bilan du budget de la sécurité sociale qui sera examiné par le Sénat dans les prochains jours. Les comptes ne sont pas bons, dit-il. Le gouvernement espérait faire passer le déficit de la sécu de 24 à 17 milliards d'euros l'an prochain. Finalement, Romain Cluzel, ce sera 23 milliards. Comment explique-t-on un tel dérapage ?
Très concrètement, les députés ont voté pour davantage de dépenses que prévu dans le texte du gouvernement, tout en réduisant les recettes. Côté dépenses supplémentaires, il y a par exemple la suspension de la réforme des retraites élargie aux carrières longues, mais aussi la disparition du gel prévu l'an prochain pour les pensions de retraite et les prestations sociales. Côté recettes, exit la taxe sur les complémentaires santé ou celle sur les tickets restaurants et les chèques vacances. À ce stade, la facture est donc de 24 milliards de déficit pour l'an prochain. C'est pire que le déficit de cette année, d'où cette mise en garde du ministre du Travail inquiet alors que le texte va désormais être examiné par les sénateurs qui devraient profondément modifier ce budget de la sécurité sociale.
Il est 7h35 sur RMC et les constructions de nouveaux logements sont au plus bas. Il y en a eu moins de 10 000 mis sur le marché au troisième trimestre du jamais vu, dit la Fédération des promoteurs immobiliers qui pointe du doigt la hausse des taux d'intérêt. Une profession très inquiète, Martin Lange.
Un permis de construire, de jolis plans, mais des projets immobiliers qui ne verront jamais le jour faute de clientèle. Nolwenn Lamkermarek est présidente d'un groupe de promotion immobilière.
L'année dernière, on avait constaté quelque chose comme 1500 retraits. C'est des projets qui étaient en vente et qui ne le sont plus. Le nombre de retraits a absolument explosé. C'est totalement inédit.
Au niveau national, c'est un projet sur cinq qui reste dans les cartons. À la hausse des taux d'intérêt et des coûts de production, s'est ajoutée la fuite des particuliers qui achètent des appartements pour les louer. Pascal Boulanger, le président de la Fédération de la promotion immobilière.
On a perdu totalement la clientèle des investisseurs locatifs puisqu'ils sont passés de plus de 60 000 à moins de 10 000.
Des investisseurs qui représentent environ 50% du marché mais qui depuis le 1er janvier ne disposent d'aucune incitation fiscale lorsqu'ils achètent.
Ça existe depuis 1986, il y a eu des lois Duflo, Séguier, De Robien, Pinel et j'en oublie plein. S'il n'y a pas ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de modèle économique. La preuve, il n'y a plus ça depuis le 1er janvier et on ne vend plus rien.
Les professionnels réclament donc un nouveau dispositif pour inciter les bailleurs privés à investir. Une disposition qui fait consensus parmi les députés mais encore faut-il qu'il vote un budget, s'inquiète un des représentants du secteur.
Des nouvelles de Boualem Sansal ce matin. L'écrivain franco-algérien libéré par Alger puis transféré à Berlin et en Allemagne. Il sera de retour en France aujourd'hui ou demain et il va plutôt bien selon son ami écrivain lui aussi, Kamel Daoud, qui a pu échanger par téléphone avec lui. Conversation retranscrite par l'hebdomadaire Le Point ce matin.
7h36, les Bleus verront donc bien l'Amérique.
Ils se sont qualifiés hier soir pour le Mondial 2026 en battant l'Ukraine 4-0 au Parc des Princes. Une qualification que Didier Deschamps savoure, d'autant que ce sera sa dernière.
J'ai profité, oui, évidemment, on avait cet objectif-là, on l'a fait. Je comprends que ça soit logique et normal que l'équipe de France se qualifie, mais il ne faut pas banaliser, nous on ne banalise pas. Je ne suis pas un grand expressif, je le reconnais. Il faut apprécier ces moments-là et on y sera. D'autant plus que je n'ai pas eu l'occasion de voir l'Amérique quand j'étais joueur. Donc beaucoup de fierté, bien évidemment.
Et les Bleus connaîtront leur adversaire en poule le 5 décembre prochain.
Et puis le Quintet Élise, 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 3, Diabelle. L'outsider, c'est le 2, Jingle Lover.
C'était le journal d'Élise d'Angen, 7h37. Au 32-16, c'est Raphaël qui nous appelle de Metz. Bonjour Raphaël.
Bonjour Apolline.
Assistante maternelle.
Bonjour à tous.
Mais bonjour à vous. Oh. Surtout Raphaël, vous vouliez réagir. Vous avez entendu tout à l'heure cette influenceur financier, entrepreneur, qui dit qu'au fond, la retraite par répartition à long terme, ça ne marchera plus parce qu'il n'y a pas le bon équilibre et qui plaide pour un peu plus de capitalisation. Vous en pensez quoi, Raphaël?
Ben, j'en pense que moi, j'ai 59 ans et depuis l'âge de 36 ans, je mets de l'argent de côté pour ma retraite. Parce que je savais déjà à l'époque qu'en tant qu'assistante maternelle, je n'aurais pas grand-chose, surtout en ayant arrêté un peu de travailler pour élever mon enfant.
Vous faites comment pour mettre de côté ?
Et ben, déjà avec un salaire, on avait appris à mettre de côté en anticipant dès le début de mois à mettre ce qu'il faut mettre de côté pour que ça soit pas dépensé.
Ça se fait. Vous l'avez mis de manière automatique pour même plus avoir à y penser, quoi. Pour voilà, même plus être tenté de le dépenser.
Voilà, bah disons qu'au départ c'était un petit peu et en début de mois et puis au bout de 8 ans j'ai décidé d'ouvrir une assurance vie et tous les mois l'argent va directement sur l'assurance vie.
Vous mettez combien dessus, Raphaël ?
Eh ben au tout début c'était 50 € et maintenant même en ayant un salaire de 1 600 € par mois parce que moi je n'accueille que 2 enfants, je mets 300 € de côté.
C'est super. Et donc Raphaël, aujourd'hui vous avez combien sur votre assurance vie ?
Alors là.
Oui, vous regardez pas. Mais vous savez qu'en tout cas, ça se met de côté et que ça sera là pour vous quand vous en aurez besoin.
Ça sera là pour moi et si malheureusement je peux pas y avoir accès, bah, je sais que ça sera transmis à mon enfant ou à mon mari directement avec l'assurance vie.
Donc comme quoi, voilà, quand on veut, même au début, en commençant par 50 €, Raphaël, merci en tout cas d'avoir partagé avec nous ce matin, Raphaël, donc assistante maternelle à Metz. C'est la première fois que je vous accueille, Raphaël.
Oui, c'est la première fois. Mais j'avoue que j'avais un petit peu peur.
Bah finalement, ça s'est bien passé.
Très bien, merci beaucoup à tous.
Avec grand plaisir. Revenez vraiment quand vous voulez. Il est 7h39 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Halte à la mafia, c'est les Corses qui le disent eux-mêmes, des citoyens, des associations, des syndicats qui se retrouvent demain dans les rues d'Ajaccio et de Bastia, des manifestations contre les mafias en Corse. Frédéric Ploquin est avec nous, journaliste spécialiste du grand banditisme. Qui sont ces mafieux corses ? Comment est-ce qu'ils pourrissent encore la vie des habitants et des commerçants ? Il nous explique tout dans un instant, 7h40.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h44, vous êtes bien à l'écoute d'RMC ou en nous regardant à la télé, RMC Story. La mafia détruit des vies, des entreprises et l'avenir de la Corse. Une manif anti-mafia, c'est les habitants corses qui prennent leur destin en main en quelque sorte. Bonjour Frédéric Ploquin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste du grand banditisme. Vous publiez Insécurité, stop à la descente aux enfers. C'est aux éditions Fayard. Frédéric Ploquin, la mafia... Encore aujourd'hui, elle pourrit la vie des Corses ?
C'est pas encore aujourd'hui, c'est même aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y a une espèce de manière un peu folklorique comme ça qui était en place, un regard un peu folklorique qui était porté sur ce qu'on appelait à l'époque le milieu corse. Le milieu corse, c'était des bandes, des grands bandits qui tapaient essentiellement à l'extérieur de l'île, hein, qui faisaient leurs affaires, qui ratissaient les banques sur le continent en Suisse et ailleurs. Et puis, 40 ans plus tard, on se réveille avec des bandes mafieuses qui ont investi, en réalité, cette fois, tout leur argent sale dans l'île et qui ont peu à peu pénétré tout le tissu économique de l'île. Et le réveil est brutal parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de l'argent... en fait, ils ont colonisé, ces bandes ont colonisé l'économie légale et ils sont présents dans le BTP, dans la restauration, dans la batellerie, dans l'immobilier, dans le voilà tout ce qui touche un peu de près ou de loin au tourisme et qui leur a été interdit pendant des années, notamment à l'époque, à la grande époque du FLNC, les nationalistes, qui interdisaient un certain nombre d'investissements, je le rappelle. Là, on n'est plus du tout là-dedans. Et quand je dis le réveil est brutal, c'est que on s'aperçoit que des pans entiers de l'économie sont truqués par la présence de cet argent sale.
Lesquels ?
Écoutez, justement, ça peut toucher tous les secteurs de la vie quotidienne. Ça peut toucher notamment la construction, l'immobilier. Ça touche tous les pans de.
Ça se manifeste comment ? C'est-à-dire que si vous voulez être un honnête entrepreneur en Corse, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous allez de toute façon être confronté à la mafia ? Et qu'est-ce qu'il faudra faire ?
Il y a deux manifestations extérieures de cette emprise entre guillemets mafieuse. Il y a premièrement ce qui est visible, c'est-à-dire les exécutions, les assassinats. Et là, je rappelle quand même qu'il y a eu un assassinat en février 2025, au début de l'année, l'assassinat, on va dire, de trop, puisque je rappelle la mort de cette jeune étudiante de 18 ans, prénommée Chloé, par accident, par méprise, par mégarde, puisque les assassins se sont trompés de cible. Ils souhaitaient, tuer le propriétaire de cette voiture au volant de laquelle elle circulait. Et elle n'avait, cette jeune fille de 18 ans, strictement rien à voir avec le banditisme, si ce n'est qu'elle avait une relation amoureuse avec un gars avec lequel elle n'aurait pas dû, peut-être, puisqu'elle était dans sa voiture. Donc, cette mort, c'est la mort de trop, c'est l'erreur de trop des voyous corses qui ont fait basculer une petite partie, pour l'instant, de l'opinion, parce que on a eu une première manifestation, entre guillemets, anti-mafia à l'époque, qui a réuni peu de monde, hein, 1500, 2000, 2500, 3000 personnes, c'est pas beaucoup à l'échelle de la Corse, mais quelques mois plus tard, il y a un retour.
Il y a un vrai réveil, on le sent de la population, ouais. Puisque cette manifestation, elle promet d'être très suivie. Vous savez quoi, je pense, Frédéric Ploquin, que j'aurais besoin à nouveau de vos lumières en début de semaine prochaine.
Non, mais je vous dis juste deux choses. Il y a ce qui est visible, donc ces assassinats, et il y a ce qui n'est pas visible, c'est l'emprise souterraine, c'est le racket qui là peut concerner absolument tous les acteurs économiques. Et le racket, ça pompe l'argent propre, mais en plus, ça perturbe, ça fausse les règles économiques et ça répand la terreur d'une certaine manière. Donc c'est un peu contre tout ça, visiblement, qu'une partie de la société
aujourd'hui
se réveille.
Exactement, que la société civile se réveille et appelle donc à cette manifestation demain. Merci Frédéric Ploquin, c'est toujours passionnant de vous écouter, spécialiste du grand banditisme, et je recommande votre dernier livre, Insécurité, Stop à la descente aux enfers, c'est aux éditions Fayard, 7h48.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Nos deux débatteurs du vendredi sont en train de s'installer dans ce studio. Cécile Duflo, voix de gauche, Charles Consigny, voix de droite. L'association France Terre d'Asile réclame la régularisation de 250 000 sans-papiers et dit même que ça rapporterait gros, puisque ça rapporterait, d'après l'association, 3 milliards d'euros dans les caisses de l'État, des travailleurs qui cotiseraient, qui paieraient des impôts. Alors, est-ce qu'il faut ce principe de réalité ? Est-ce qu'au contraire, il faut stopper l'immigration irrégulière. On en parle dans un instant, surtout ils en débattent. Charles Consigny, Cécile Duflo, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, Lady Gaga débarque en France.
L'étape française de sa tournée mondiale hier soir, c'était première date à Lyon, son et lumière, fans en délire, parfois déguisés même. Événement particulièrement attendu, d'autant que les billets se sont vendus cher, hein, jusqu'à 450 euros pour les derniers remis en vente cette semaine. À la fin du concert, Lady Gaga a consacré cette chanson que vous entendez. The Edge of Glory, aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Je veux chanter cette chanson en l'honneur de tous ceux que l'on a perdus dans les attaques il y a 10 ans. Elle est aussi revenue sur un épisode psychiatrique difficile pour elle, internement à l'hôpital, perte de contact avec la réalité, crise de panique sur scène, je ne pensais pas pouvoir m'en sortir. Mais elle s'en est sortie, Lady Gaga qui va mieux, qui le dit et qui sera à nouveau sur scène à Lyon ce soir avant d'entamer 4 dates parisiennes à Bercy la semaine prochaine.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
7h51, le débat RMC, voix de droite, voix de gauche, Cécile Duflo à ma gauche, Charles Consigny à ma droite. Et ce matin, vous allez débattre de cette proposition. France Terre d'Asile, l'association dirigée par l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem, fait une proposition choc, régulariser 250 000 sans-papiers. Et l'ONG dit que ça rapporterait gros, puisque ça rapporterait, d'après leurs calculs, 3 milliards 300 millions d'euros à l'État en cotisation sociale, en impôts supplémentaires. Charles Consigny.
Ce qui rapporterait à l'État, déjà, ce serait de faire l'économie du salaire de Mme Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes.
Ah, elle a été effectivement nommée à la Cour des comptes.
Puisque dans une espèce de gang de socialistes qui se rendent des services sur le dos des Français. Il faut le dire comme c'est. Moi, je ne sache pas que la Cour des comptes était sous-staffée au point d'avoir urgemment besoin de verser un salaire à 5 chiffres à Mme Vallaud-Belkacem. Donc, ce débat va permettre à certains de montrer leur générosité avec l'argent des autres. C'est une spécialité de certains. Moi, je ne suis pas par principe opposé à des régularisations. Je pense que ça fait partie de la vie d'un pays et d'un pays dynamique que d'accueillir un peu d'immigration. Je crains simplement que les forces démographiques en œuvre aujourd'hui, avec une démographie très forte en Afrique et très faible en Europe, va faire qu'on a devant nous une vague migratoire très importante et qu'on doit se donner les moyens de la contenir.
Cécile Duflot.
Alors d'abord, il y a deux choses. Ce qui est intéressant dans ce rapport, je ne vais pas rentrer sur les hors-sujets de Charles.
Sur le salaire de Madame Vallaud-Belkacem.
C'est d'objectiver ce que ça coûte aujourd'hui et ce que ça pourrait rapporter. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui travaillent en France, qui pourraient payer des impôts, qui pourraient payer des loyers, mais qui par un système qui est quand même absurde, parce que on sait, et dès que vous parlez un patron...
Du travail au noir.
Du travail au noir, et puis du vrai faux travail déclaré, c'est-à-dire qu'il y a plein de patrons qui savent qu'ils embauchent des gens avec des papiers qui ne sont pas forcément eux, mais qui ont besoin d'eux, dans le secteur de la restauration, dans le secteur de la construction, dans le secteur de l'agriculture. Enfin, c'est dès que vous parlez à des gens qui travaillent réellement,
oui,
qui emploient
des
gens,
ils payent des...
Exactement.
Ils payent des cotisations dans ces cas-là.
Mais ils le payent pas à la bonne personne. On est dans une espèce de zone entre deux avec un nombre d'heures qui correspond pas. Donc on a des gens qui travaillent. L'histoire récente de Mamadou Garanké Diallo a montré que c'était un jeune homme qui arrive en France à 15 ans, qui est devenu apprenti, qui a été accueilli par un boucher qui allait reprendre sa boucherie, tout allait bien. Et il a eu une OQTF, ça a coûté là aussi beaucoup d'argent. Il a fini par en mourir alors qu'il devrait simplement devenir boucher en Normandie et rendre les habitants et tout le monde content.
Alors je précise sur les OQTF,
ce système-là.
Sur les OQTF, le rapport de Najat Vallaud-Belkacem propose notamment en effet de considérablement baisser les OQTF parce que ça ferait économiser 300 millions d'euros, dit Najat Vallaud-Belkacem.
Mais il y en a une grosse partie qui sont pas exécutées parce qu'elles sont pas vraiment exécutables, notamment parce que simplement les gens n'ont pas pu prendre rendez-vous pour renouveler leurs papiers, mais ils sont légitimes à renouveler leurs papiers. Il y a un dysfonctionnement administratif et parallèlement il y a un besoin en main d'œuvre. Et je pense que si on prend le sujet par cet aspect-là, de manière extrêmement pragmatique, qui s'occupe des personnes âgées aujourd'hui, qui s'occupe des enfants, c'est évidemment une partie des gens qui sont immigrés et c'est l'histoire même de la France. C'est l'histoire
les
même
OQTF.
De la France.
Oui, bien sûr. Ça, on nous dit toujours que c'est l'histoire de la France.
Ben, c'est vrai.
Non mais d'abord, qui paye des loyers et qui paye des impôts, pardon, il y a des gens qui sont contributeurs nets, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a aussi qui habitent dans des HLM qui sont payés par la collectivité.
Contributeurs nets ou pas, on va préciser, c'est que effectivement ils rapportent à l'État plus qu'ils ne récupèrent par ailleurs.
Mais oui, il faut dire les choses comme elles sont. Comme nous sommes un pays socialiste, voire communiste par certains aspects, il y a des gens qui coûtent plus cher à la collectivité qu'ils ne lui rapportent. Ça, c'est une réalité. Et donc, je suis désolé, mais quand vous accueillez une famille entière qui arrive de l'étranger et qu'il faut scolariser les enfants, payer les soins de santé, payer le HLM, payer les transports, etc. Je suis désolé, je sais que c'est pas agréable à entendre parce que ça paraît un peu mesquin, mais quand ça devient un phénomène de masse, ça finit au contraire par peser sur les comptes publics. Donc moi, je pense que là où on doit effectivement faire évoluer le droit, puisque moi-même, comme avocat, je m'occupe de dossiers comme ça, c'est qu'il y a un paradoxe dans le fait de dire à quelqu'un vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas de titre de séjour, et de lui dire en même temps si vous voulez un titre de séjour il faudra prouver que vous avez travaillé. Donc voilà. je pense qu'il faut faire évoluer la loi là-dessus pour ceux qui travaillent. Effectivement, pour ceux qui travaillent, je pense qu'il faut inventer un statut qui leur permette, dans l'attente de se voir délivrer un titre administratif de séjour régulier sur le territoire français, un titre qui leur permette de travailler sans se trouver dans cette espèce d'entre-deux hors la loi. Mais je pense enfin que malheureusement c'est aussi parce parce qu'on est un État beaucoup trop providence, qu'on a un assistanat qui s'est généralisé, qu'il y a beaucoup de Français qui ne font pas les boulots que vous décrivez. Et je pense que si on était un tout petit peu moins généreux en allocation chômage, en prise en charge diverses et variées de tout et n'importe quoi par la collectivité, on trouverait du monde pour s'occuper des enfants, pour travailler dans les restaurants et pour s'occuper des personnes âgées.
Votre réponse, Cécile Duflot.
Alors déjà, il y a deux problèmes dans ce que vient de dire Charles, mais il y a un point d'accord. Et d'ailleurs, c'est un point du rapport de France Terre d'Asile, de dire notamment que les personnes qui sont demandeurs d'asile, à qui on donne une allocation mais qu'on empêche de travailler, bah pour ceux qui sont capables et qui ont en plus envie de travailler, pour qui c'est une forme d'intégration et qui souvent travaillent dans le pays d'où ils viennent, et bien qu'ils puissent travailler, ça semble tomber sous le sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur l'aspect extrêmement favorable de nos conditions. D'abord, il faut se dire qu'il y a une durée de séjour nécessaire pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'allocations et que personne qui risque sa vie en traversant la Méditerranée, qui risque de se noyer, parce qu'aujourd'hui, la Méditerranée, c'est un cimetière à ciel ouvert, ne fait un benchmark des
où est-ce que je vais en gagner plus sociales.
C'est absurde, c'est pas du tout ça. C'est à la fois soit par désespoir, et c'est le cas de beaucoup de personnes, soit pour certains d'entre eux par l'espoir de vivre mieux, mais il faut quand même se dire juste un moment sur notamment la démographie en Afrique, les migrations, elles se font dans la région. L'immense majorité des gens qui quittent leur pays ou la zone où ils habitent le font à une grande proximité. C'est très, très peu de personnes qui traversent la Méditerranée.
Merci.
Mais on a besoin de les accueillir dans de bonnes conditions.
Merci à tous les deux. Cécile Duflot, Charles Consigny. Le débat du vendredi, il est 7h57. On se retrouve dans un instant sur RMC pour la météo et le journal. Et l'économie avec Emmanuel Le Chypre. Et une bonne nouvelle, il y a moins de passoires thermiques. Vous allez voir, il nous explique tout. 7h58.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.